C'est une motorisation de plus en plus plébiscitée par les Français, la motorisation hybride, ou plutôt devrais-je dire les motorisations hybrides, puisque derrière ce mot se cachent de nombreuses réalités technologiques. On vous explique tout dans ce nouveau numéro d'En route pour demain.
En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co.
L'hybride, c'est la motorisation qui cartonne en ce moment. C'est environ un tiers des immatriculations de voitures neuves. Et sur les trois premiers mois de l'année, eh bien, les immatriculations de voitures hybrides ont même dépassé celles de voitures essence. Mais alors derrière ce mot d'hybride, eh bien, en fait, il y a plein de réalités technologiques qui se cachent. Alors la toute première hybride, elle avait été commercialisée en 97. C'était la fameuse Prius de Toyota. Mais depuis, la technologie a bien évolué. Il y a en fait différentes familles d'hybrides. Et c'est ce que nous allons vous expliquer dans ce numéro spécial d'En route pour demain. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de chaque technologie, à quel conducteur et bien chacune s'adresse. Nous avons 4 technos, nous avons donc pris 4 voitures et la première technologie dont nous allons vous parler, et bien c'est l'hybride léger. En fait, c'est le premier niveau d'hybridation que vous allez pouvoir rencontrer sur la route. Julien Bonnet et Bastien Potti nous emmènent à bord de la Suzuki Swift en hybride léger 12 volts.
On démarre cette émission avec ce qui représente un premier palier dans l'électrification des véhicules avec cette Suzuki Swift équipée d'un moteur micro-hybride 12 volts. La marque japonaise vient en effet de lancer la quatrième génération de sa Citadine, concurrente notamment des Renault Clio ou Peugeot 208. Un modèle qui a enregistré plus de 9 millions de ventes depuis le lancement de la première génération en 2004 et qui a connu par ailleurs un joli succès en France. Il y a justement du changement sous le capot, hein, sur la partie thermique, hein, de ce système micro-hybride. Hein, Suzuki est passé d'un moteur 4 cylindres à un moteur 3 cylindres, 82 chevaux, 1,2 litres, toujours de cylindrée, mais qui est censé être plus sobre. Pour la partie électrique, hein, on reste sur une petite batterie, 12 volts, une centaine de watts, donc un dixième de kilowattheure. C'est très petit et ça a l'avantage de rester assez léger. Cette petite batterie, elle va récupérer en fait l'énergie cinétique du véhicule à la décélération et elle va pouvoir le restituer au moteur dans les phases d'accélération. Bah, l'idée, c'est bien sûr de réduire la consommation. On va voir tout de suite au volant ce que ça donne. Me voici au volant de cette nouvelle Suzuki Swift. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être de tester justement la promesse de la marque japonaise, hein, une réduction d'un litre au 100 de la consommation de carburant sur du trajet plutôt urbain. Nous, aujourd'hui, on a prévu de rouler une centaine de kilomètres sur un trajet plutôt mixte, hein, avec un peu plus de voies rapides, voir ce que ça donne niveau conso. Donc, pour rappel, hein, on est sur le modèle de lancement avec le moteur 1,2 litre et ce système micro-hybride. Le tout est associé à une boîte manuelle 5 vitesses et donc on va tester ça sur la route. Ça fait maintenant un peu plus de 50 km qu'on roule à bord de cette nouvelle Swift hybride et la première impression est plutôt bonne, hein, que ce soit en termes de confort général ou bien de tenue de route. Trois cylindres, il se révèle pas trop bruyant puisque ça peut être un défaut souvent constaté sur ce type de moteur. Alors sur la partie micro-hybride, hein, ce qui nous intéresse, hein, elle reste aussi assez discrète. On va très peu le sentir à la décélération. En fait, c'est une voiture qui se conduit vraiment comme une thermique normale, hein. Il faut bien rétrograder notamment pour jouer du frein moteur et c'est lorsque ce frein moteur s'active que la batterie va se régénérer. Ensuite, à l'accélération, même chose, hein, le petit boost, il est quand même très léger, mais on sent bien que ça va apporter un petit peu de couple, surtout à bas régime. Donc on a très hâte de voir qu'est-ce que ça va donner niveau consommation. On rappelle qu'on est sur une voiture qui démarre à 17 790 euros. Donc certes, c'est 2000 euros de plus que la précédente Swift, mais ça reste assez bien positionné, notamment face à ses principales concurrentes. Sur notre modèle d'essai, on est quand même sur une version très bien équipée avec régulateur adaptatif, suivi des lignes de la route, siège chauffant, bref, pas mal d'options qui font un véhicule assez complet pour à peine plus de 20 000 euros. Toujours sur cette partie hybride, on va avoir notamment une petite animation entre les compteurs, donc sur mon poste de conduite ou également sur l'écran tactile, qui vont me permettre de constater justement ces petits mouvements d'énergie entre le moteur thermique et cette partie électrique. Nous arrivons à la fin de cet essai, donc c'est l'heure du bilan conso. On a roulé un peu plus de 100 km et la consommation, elle est à peine supérieure à 5 litres au 100. Donc ça, c'est globalement très positif pour cette petite Citadine. Alors la motorisation micro-hybride, elle est forcément pour quelque chose dans ce niveau de consommation, même si cette appellation, elle peut être un petit peu trompeuse. On n'est pas vraiment en possibilité de rouler en 100% électrique, par exemple, même sur une distance très courte. Ça va tout de même permettre de réduire la consommation. Et en fait, cette consommation faible, elle s'explique surtout par le poids très limité du véhicule. On est à 920 kg seulement en masse à vide sur notre modèle d'essai. Et la partie électrique, donc la petite batterie, l'alterno démarreur 12 volts, ça représente à peine une vingtaine de kilos, donc une architecture très faible en poids. Une motorisation qui reste donc séduisante pour arriver à un premier niveau d'électrification.
Bon, quand je vous disais que l'hybride était une technologie aux multiples visages, eh bien ça commence dès l'hybride léger, puisqu'après la version 12 volts, nous allons passer à une version un peu plus puissante, l'hybride léger 48 volts. Julien Bonnet et Bastien Potti nous expliquent tout de suite la différence, cette fois-ci au volant d'un modèle Opel.
Oui, on passe en effet à un deuxième niveau d'hybridation légère avec ce coup-ci une technologie 48 volts qui est désormais assez répandue dans l'offre automobile. Donc on est toujours sur une technologie mild hybride qu'on retrouve aussi sous l'acronyme MHEV ou micro-hybride, comme ce qu'on avait chez Suzuki, sauf que là, la tension, elle est supérieure, on passe de 12 à 48 volts et donc on a d'autant plus d'espoir de diminuer la consommation. Comme exemple, nous avons choisi cette Opel Corsa. La marque allemande propose en effet depuis peu une offre baptisée hybride, une appellation d'ailleurs un peu trompeuse puisque il ne s'agit pas de full hybride ou hybride non rechargeable qui permet de diminuer beaucoup plus la consommation. Alors on est vraiment sur une cousine de la Peugeot 208. Les deux marques, elles font partie du groupe Stellantis. Et donc, cette technologie hybride, elle est proposée en alternative au 100% thermique ou au 100% électrique.
Nous voici à bord de cette Corsa. Et donc, on est ici en finition GS, donc une version plutôt bien équipée. Et avec, donc sous le capot, le moteur 1,2 litre turbo essence de 100 chevaux. Comme sur la 208, ce moteur, il est aussi proposé avec une puissance de 136 chevaux et on le rappelle au passage, un tout nouveau moteur 1,2 litre après les critiques subies par le moteur PureTech avec sa courroie qui baignait dans l'huile et qui a été remplacée par une distribution par chaîne. En complément de ce bloc thermique, on retrouve sur ces versions hybrides une nouvelle transmission à double embrayage électrifiée et associée aussi à un petit moteur électrique de 21 kW, donc environ 28 chevaux. Du mild hybride plus en quelque sorte d'après Opel qui compte notamment sur une réduction de la consommation plus importante que sur des systèmes 48 volts plus classiques avec un alterno démarreur électrique. La promesse c'est de réduire la consommation de 1 litre au 100 en passant tout simplement sous les 5 litres. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne sur la route.
Alors ce qu'il faut retenir de la conduite sur cette Corsa hybride, c'est déjà au démarrage, on va avoir le moteur thermique qui va se déclencher forcément. Et après, sur les phases de roulage donc à basse vitesse, on va en effet pouvoir un petit peu rouler en 100% électrique. Le moteur électrique, en fait, il va pouvoir déplacer uniquement le véhicule à très basse vitesse et sur une distance qui peut aller au maximum jusqu'à 1 km. Donc on va dire sur des manœuvres ou lorsqu'on roule dans un trafic très dense à moins de 30 km/h. L'autre rôle, ça va être d'accompagner le moteur thermique dans les phases d'accélération et en décélération, récupérer l'énergie, notamment via du freinage régénératif pour alimenter la batterie 48 volts. Une toute petite batterie, moins de 1 kWh, 0,9 kWh exactement, ou 900 Wh. Donc, elle va forcément se décharger très vite dans son rôle d'accompagner le moteur thermique. Mais l'avantage, c'est qu'elle va aussi se recharger très vite. Alors l'idée, c'est vraiment pour le conducteur qu'on n'a rien à gérer. Il n'y a aucun bouton pour forcer un mode hybride ou électrique. C'est vraiment le véhicule qui va justement arbitrer pour apporter cette puissance électrique pour soutenir le moteur thermique. Alors ce qui est plutôt bien fait, c'est qu'on entend beaucoup de bruit électrique qui s'active lorsqu'on décélère donc pour recharger la batterie ou lorsqu'on accélère, des fois des petits bruits justement de moteur électrique. Et en fait, on va pouvoir voir directement si le système hybride il est actif. En fait, les chiffres de la vitesse vont apparaître en bleu lorsqu'on a cette hybridation en marche, et sinon ce sera en blanc quand on est uniquement sur le moteur thermique. On a roulé un petit peu plus de 50 km, donc pour se faire une idée justement de cette consommation réelle, et là on est à 6 litres au 100, donc c'est peut-être un petit peu supérieur à ce qu'on attendait sachant qu'on est à une vitesse moyenne de 25 km/h. On a roulé principalement en ville et sur des petites voies rapides autour de Saint-Germain, donc en région parisienne. Alors sur la première partie du trajet, j'étais resté en mode de conduite normal et c'est peut-être ça qui explique qu'on a un petit peu plus consommé que prévu. Et depuis que je suis passé en mode éco, donc sur environ 30 km, on est en effet à une conso sous les 5 litres au 100 à 4,6 litres exactement. L'autre information intéressante qui apparaît à l'écran, c'est le taux de roulage en électrique. Et là, depuis le début de notre parcours, on est à 47%. Donc on reste sur une petite citadine polyvalente sans chevaux, donc la puissance reste assez raisonnable et on sent vraiment par contre que cette hybridation légère, elle va lui apporter un peu de couple, notamment pour accompagner les accélérations et ça c'est toujours agréable.
Un bilan conso plutôt prometteur donc pour cette technologie 48 volts chez Stellantis et en l'occurrence sur cette Opel Corsa. Cette Corsa micro-hybride sans chevaux, elle démarre à partir de 22 200 € en France et donc ça représente un surcoût de 800 € par rapport à la version thermique équivalente sans micro-hybridation. On est en revanche bien en dessous, et c'est plutôt logique, de la Corsa 100% électrique pour laquelle il faut compter tout simplement 10 000 € de plus, bonus écologique de 4 000 € déduit.
Place désormais au véritable hybride, celui qui a été inventé par Toyota. Alors, il est aujourd'hui utilisé par d'autres constructeurs, notamment Renault, qui après avoir misé uniquement longtemps sur le 100% électrique, ajoute aujourd'hui à ses gammes des modèles hybrides. Alors, comment fonctionne ce full hybride, comme on dit en anglais? On retrouve tout de suite Julien Bonnet et Bastien Potier au volant d'une Renault Clio pour tout nous expliquer.
Et oui, cette motorisation hybride classique, auto-rechargeable ou non rechargeable, elle a été popularisée par Toyota depuis 1997, mais d'autres marques la proposent depuis, par exemple Hyundai ou bien Renault. Et c'est le cas de cette Clio E-Tech Full Hybrid, si on reprend la dénomination commerciale utilisée par la marque aux losanges. Une version d'ailleurs qui connaît un joli succès, puisque ça représentait une vente de Clio sur 4 l'an dernier. Et depuis le début de l'année 2024, on est même sur une vente sur 3 en hybride pour cette Clio. On parle aussi d'hybride série parallèle, puisque en fait cette motorisation, elle va pouvoir fonctionner uniquement en électrique, 100% en thermique ou bien en combinant les deux. Et oui, donc le principal avantage par rapport à l'hybridation légère dont on vous parlait en début d'émission, c'est qu'on va avoir une capacité de batterie plus importante, une tension aussi plus importante, et donc cette batterie va pouvoir alimenter un moteur spécifique électrique et qui peut fonctionner indépendamment du reste. Et donc ça va d'autant plus permettre de limiter la consommation. Alors un fonctionnement qui peut paraître complexe, mais en fait c'est assez simple, je vais tout de suite vous montrer à l'intérieur à quoi ça ressemble. Me voilà donc au volant de cette Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Voilà, donc je viens de la démarrer. On entend le moteur thermique qui se déclenche, mais en fait, il vient de s'arrêter parce que en fait, il a juste rechargé ponctuellement la batterie pour atteindre un niveau, on va dire, correct, parce que la plupart des démarrages vont se faire en électrique et même le roulage à basse vitesse. En général, vous êtes en 100% électrique. Sauf que la batterie, elle fait une taille relativement limitée, 1,2 kWh. Donc en fait, elle va régulièrement se vider, mais se recharger aussi ponctuellement, soit en récupérant l'énergie depuis les roues, soit avec donc le moteur thermique qui se déclenche, avec la possibilité soit d'entraîner la traction en complément de la batterie, soit simplement de recharger cette batterie. Alors ça peut sembler complexe comme ça, mais l'idée c'est que c'est vraiment la voiture qui va gérer la répartition entre motorisation thermique, électrique ou les deux pour vraiment réduire la consommation. Nous on a roulé un petit peu plus de 120 km cette semaine en région parisienne, donc principalement de la ville, mais aussi un peu de voie rapide jusqu'à 90-110 km/h. Et on est quand même sur une consommation de 5 litres au 100, donc ça c'est quand même très positif pour une citadine polyvalente en motorisation essence. Alors le point positif c'est qu'on va avoir une utilisation très proche d'une voiture 100% électrique sur les phases de roulage en ville sous les 50 km/h. Alors forcément, avec une batterie d'une capacité relativement limitée, le moteur thermique va souvent chercher à la recharger. En fait, cette jauge d'autonomie de la batterie, elle va varier de manière assez rapide. Et quand elle passe sous la moitié, en général, le moteur thermique va souvent s'activer. Donc ça peut arriver par exemple à un feu rouge ou même lorsqu'on roule uniquement via l'électrique. Le moteur thermique se déclenche, mais pas forcément pour alimenter les roues, mais uniquement pour recharger cette batterie. Et ça va se matérialiser sur l'écran des compteurs, mais aussi l'écran central où vous allez pouvoir voir en temps réel à quoi servent les différents moteurs. Cette motorisation hybride chez Renault, elle se compose d'un moteur essence 1,6 litres qui est couplé à un moteur électrique et également à un alterno démarreur. Donc le tout offre une puissance totale cumulée de 145 chevaux. Donc autant dire qu'on en a sous la pédale sans avoir une conduite très sportive pour réaliser la plupart de ses actions au volant. Alors logiquement, on est en boîte de vitesse automatique, on va pas avoir à se soucier du passage de rapport. Le seul choix qu'on va avoir finalement au niveau de la marche avant, c'est un mode roue libre, le mode D, drive, et un mode B pour break qui va maximiser le freinage régénératif. Donc quasiment un mode one pedal pour aller jusqu'à l'arrêt simplement en relâchant la pédale de l'accélérateur. Alors bien sûr, on a une petite touche EV ici hein, sur le tableau de bord qui va permettre de forcer le mode 100% électrique, mais je recommanderais pas en fait cette utilisation parce que la batterie elle est une taille tellement limitée justement qu'il vaut mieux laisser le système arbitrer. Le but ça va être au final de réduire la consommation et nous au vu de notre essai, c'est plutôt mission réussie. Bilan de cet essai, hein, cette motorisation hybride non rechargeable, elle se révèle donc assez convaincante, que ce soit en termes de dynamisme à la conduite comme de réduction de la consommation, hein, c'était notre objectif principal. Avec une consommation un peu inférieure à celle mesurée lors de notre essai, hein, Renault promet 900 km d'autonomie sur un seul plein, et donc ça c'est quand même une sacrée performance sur un réservoir qui fait seulement 39 litres. Alors cette motorisation full hybride chez Renault, elle démarre à partir de 23 800 euros sur cette Clio en finition de base. Pour se rendre compte, hein, c'est 4000 euros de plus hein, que la Clio équivalente, mais en motorisation essence TCE 90 chevaux. Sur notre modèle d'essai en finition Esprit Alpine et donc haut de gamme, on est plutôt sur un prix de départ autour des 27 600 euros. On dispose de 145 chevaux, donc il y a aussi un gain en puissance à travers cette hausse de prix.
Rouler en toute électrique, c'est aussi possible avec l'hybride rechargeable, cette fois-ci sur de plus longues distances. Alors cette technologie, c'est la plus complexe puisqu'elle combine dans un seul véhicule une voiture thermique et une voiture électrique. C'est aussi la plus décriée puisque si on ne recharge pas la batterie, eh bien ça ne sert pas à grand-chose. Alors comment fonctionne l'hybride rechargeable? C'est ce que nous allons voir dans un dernier essai, toujours avec Julien Bonnet et Bastien Potti.
Et oui Pauline, on termine par cette motorisation hybride rechargeable qui fait souvent débat. Une motorisation qui va avoir différentes appellations selon les marques. C'est par exemple GTE chez Volkswagen ou hybride plug-in chez d'autres marques. Plug-in, donc le fait de pouvoir se brancher, qu'on va également trouver dans l'acronyme PHEV ou PHEV en anglais pour plug-in hybride electric vehicle. Le meilleur des deux mondes, avec une partie thermique, en général plutôt un moteur essence et également un moteur électrique, mais qui va être associé à une batterie d'une capacité plus importante que dans un véhicule hybride non rechargeable. Et donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir rouler en mode zéro émission sur plusieurs dizaines de kilomètres, en général environ 50, mais certaines marques proposent un peu plus. Alors c'est le cas de ce tout nouveau Toyota CHR qui propose pour la première fois une motorisation hybride rechargeable et qui offre 66 km d'autonomie théorique. Et donc ça, pour la marque japonaise, c'est totalement suffisant pour les trajets du quotidien puisqu'un conducteur en Europe, il roule en moyenne chaque jour un peu moins de 45 km. Au programme, un moteur électrique de 163 chevaux placé à l'avant et qui est relié à une batterie d'une capacité de 13,6 kWh. Donc pour se rendre compte, c'est environ la moitié de la capacité de la batterie qu'on va retrouver dans une voiture 100% électrique de petite taille comme la Dacia Spring. Et sur la partie thermique, on retrouve un moteur essence 2 litres qui offre une puissance de 143 chevaux. Et donc les deux moteurs, quand ils agissent de concert, ils offrent une puissance cumulée de 223 chevaux. Du coup, on a envie de voir ce que ça donne niveau consommation. C'est parti.
Nous voici au volant de ce nouveau CHR PHEV. Et donc, pour alterner entre les différents modes de conduite, plutôt de motorisation, tout va se jouer au niveau de ces deux boutons sur la console centrale. Alors ce premier bouton, il va me permettre d'alterner entre mode hybride et mode électrique forcé. Et donc c'est ça, les fameux 66 km d'autonomie annoncés en zéro émission. On pourra même atteindre 100 km en ville. À noter qu'on va pouvoir aussi rester appuyé sur ce bouton pour déclencher une recharge de la batterie via le moteur thermique. Alors c'est pas recommandé parce que forcément ça va faire gonfler la consommation, mais ça peut être pratique dans certains cas quand on n'a vraiment aucune solution pour se brancher. Pour recharger la batterie, il est vraiment recommandé de justement trouver une borne de recharge, soit à domicile ou sur son lieu de travail ou une borne de recharge publique. Et dans ce cas-là, il faudra compter 2h30 pour passer de 0 à 100%. Le deuxième bouton, donc pour nous, ça va vraiment être le mode à privilégier. En fait, ça va être un mode qui va automatiquement alterner entre hybride et électrique uniquement. Alors ce mode, il va vraiment chercher à maximiser la conduite 100% électrique. C'est ce mode qu'on a testé en premier qui s'est révélé assez prometteur avec un taux très élevé de conduite 100% électrique et surtout un confort lié justement à cette motorisation zéro émission. C'est silencieux, c'est assez dynamique quand même en reposant uniquement sur la partie électrique. Et on a également une direction qui va se montrer assez souple mais tout de même assez précise. Et donc ça va participer vraiment au confort de conduite de ce tout nouveau CHR PHEV.
En forçant le mode 100% électrique, on a roulé un peu plus de 60 km ce matin avec une part importante de ce roulage sur autoroute à 110 km/h. Un scénario dans lequel le véhicule est d'ailleurs repassé quelques fois en mode hybride en activant donc le moteur thermique. Ça, c'est ce qui explique notre taux de roulage électrique qui apparaît au compteur de seulement 87%. Assez logique, en fait, la voiture va chercher à conserver de la batterie et va donc, dans ses phases de roulage à haute vitesse, passer plutôt sur le moteur thermique afin de conserver de l'énergie électrique pour les phases de roulage en ville notamment. On peut ajouter que ce CHR, hein, est équipé d'une fonction de géolocalisation et donc selon l'itinéraire programmé dans le GPS, il va chercher encore une fois à maintenir un certain niveau d'autonomie lorsqu'on arrivera dans une zone à faible émission, hein, les fameuses ZFE qui se développent dans les grandes villes de France et même d'Europe. Sur cette phase de roulage 100% électrique, on a consommé environ 20 kWh au 100, hein, ce qui reste plutôt un bon score. L'idée était ensuite de circuler batterie vide, hein, et donc ce CHR, il passe alors en mode hybride classique, il conserve une petite part de batterie pour fournir une assistance au moteur thermique. Sur une vingtaine de kilomètres, batterie vide donc, et principalement en ville et sur des petites routes, on a consommé moins de 5 litres au 100, donc ça c'est plutôt prometteur. Alors cette motorisation hybride rechargeable, le meilleur des deux mondes, ça a forcément un prix, hein, assez élevé. En France, les tarifs, ils démarrent à partir de 35 000 euros avec un MG EHS. Alors ça, c'est vraiment le prix minimum, hein. Souvent, sur l'hybride rechargeable, il faut compter un budget au-delà des 40 000 euros. Ce CHR PHEV, il fait pas exception avec des tarifs qui débutent à partir de 44 990 euros. Et ça, c'est tout simplement 10 000 euros de plus que le CHR en hybridation classique.
Voilà, c'est la fin de notre émission spéciale hybride. J'espère que nos explications, nos essais vous auront permis de vous faire peut-être une idée un peu plus claire sur la technologie finalement la plus intéressante selon les cas d'usage de chacun. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.
En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.